Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vers vous avec une question qui m'a été posée à deux reprises et du coup ben, je pense que ça vaut la peine d'aller l'explorer. La question c'est de savoir si la méditation et la pleine conscience sont liées. Et oui, en fait c'est vrai que Jon Kabat-Zinn a mis en place une méthode qui s'appelle la MBSR, Mindfulness Based Stress Release, qui est en fait une technique utilisée dans les hôpitaux qui permet de réduire le niveau de stress des patients. Au départ en tout cas c'est comme ça que ça se passe sous forme de groupe. Et l'idée de la pleine conscience passe effectivement par l'usage de la méditation sur le plan ancestral. Alors, pour préciser ce que c'est que la méditation sur le plan ancestral par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, eh bien, simplement, la méditation au sens original du terme, c'est se mettre dans un état d'observation. Je l'avais déjà dit, c'est quelque chose de contemplatif, en fait. C'est contemplatif, c'est laisser passer les idées, elles sont là, mais on ne s'y accroche pas. C'est être en contact avec le ressenti sans le juger. C'est ressentir notamment nos émotions, même peut-être de haine, de colère, de peur ou autre, et ne pas s'y accrocher, les laisser simplement exister et faire le chemin en nous. Et à partir de là, eh bien en fait, la méditation, c'est juste une pratique qui ne demande même pas d'amélioration, ça ne demande pas d'exercice, même s'il faut s'exercer pour pouvoir être en lien avec soi. La méditation en soi, c'est pas un système de performance. C'est au contraire, enfin plus on la pratique, évidemment, plus on est en lien. Mais c'est pas un but en soi, en fait, que d'améliorer ses capacités à méditer. On médite toujours mieux, d'ailleurs, quand on n'est pas conscient de ce qu'on recherche, que quand on met une conscience derrière. Donc voilà, l'aspect contemplatif, finalement, c'est quelque chose, c'est la full acceptation, l'acceptation complète de soi et de notre environnement et de ce qui s'y passe. Et à partir de là, eh bien, la pleine conscience vient rajouter une couche consciente, justement, qui est de comprendre ce qui se passe et à partir de là, peut-être pouvoir mettre les mots nécessaires et mettre une intention. Et l'intention de départ, donc, est contemplative pour la méditation. C'est ça, être en lien avec le présent, et c'est trouver la paix. Après, la pleine conscience vient rajouter quelque chose quand on sort de cet état de paix, ou qu'on médite et qu'on se rend compte qu'on n'est pas en paix. Et là, soit c'est le mental qui est trop actif ou dynamique et qui nous pousse en fait à sortir de l'instant présent et à projeter des choses peut-être, ou alors c'est l'émotionnel qui s'active et qui vient parler des blessures qu'on a enfouies en nous dans notre inconscient et qui nous ont fait souffrir et qui viennent raviver des émotions qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de passer. Et voilà, dans les deux cas, qu'on soit en train de se projeter dans le futur ou qu'on soit accroché au passé, on perd notre énergie. Et le simple fait de se reconnecter au présent et de se détacher de tout ça et de laisser les choses exister et entre guillemets s'évaporer d'une certaine manière, eh bien ça va permettre justement au stress de redescendre, en tout cas on va s'apaiser. Et cette détente, elle va se ressentir au même titre que on va se faire par exemple masser les pieds, moi j'aime beaucoup ça. Et un massage des pieds, en fait, c'est toujours impressionnant parce que on a l'impression après une heure, quand on remet ses chaussures, d'avoir des pieds qui ont rétréci, alors que la taille des chaussures est toujours la même. Et en fait, c'est simplement la même chose qui se passe dans le corps. Quand on est en paix avec ça, quand on est en détente, eh bien, on le sent. On le sent dans la respiration, on le sent dans la manière de parler, on le sent dans les relations, on le sent dans l'état d'esprit. Tout est plus léger, et notamment, forcément, notre manière de bouger, notre manière de sourire. Il y a quelque chose de plus pur, de plus naturel qui se dégage. Et ça, évidemment, c'est le témoin d'un état de paix intérieure. Et cette paix intérieure va évidemment améliorer la qualité de notre vie au sens large, en fait. Que ce soit par rapport à la douleur, par rapport à la maladie, comme le fait la MBSR au départ, c'est une belle intention, évidemment, mais pas seulement, ça peut améliorer notre quotidien, ça peut améliorer la manière dont on sent dans notre emploi du temps, dans nos activités, dans nos choix, et ça nous donne également le recul nécessaire pour pouvoir faire des choix qui soient cohérents par rapport à nos besoins. Et voilà, moi je pense que c'était vraiment important en fait de répondre à cette question, parce que finalement, c'est vrai qu'il y a des termes comme ça qui sont utilisés un petit peu à tort et à travers, et on ne sait pas trop de quoi on parle. La conscience, c'est jamais qu'allumer la lumière dans l'ombre. Hein. Au final, c'est pouvoir voir les choses qu'on n'a pas encore regardées, et pour ça, la méditation, effectivement, a un chemin. Et l'aspect contemplatif de la méditation, c'est justement le non-jugement et c'est l'acceptation des choses. Donc voilà, pour résumer, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, moi, ce que j'aimerais rappeler, surtout par rapport à ça, c'est que Une technique méditative, une pratique méditative ne se fait pas nécessairement avec les doigts de pied croisés ou les jambes croisées en lotus, etc. Ça se fait pas non plus en prenant longtemps pour le faire. Ça peut se faire... En fait, l'idée, c'est une pratique régulière, et surtout quand on en a besoin, pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir se remettre dans un état de paix intérieure et s'aligner sur nos besoins. À partir de là, tout peut se passer. Les projections dans le futur peuvent se réduire, même peut-être s'arrêter, l'idéal, et on s'accroche plus au passé. Et du coup, les émotions vont se stabiliser à partir du moment où elles ont été explorées, nommées, touchées, ressenties, et puis automatiquement, on va commencer à voir les choses différemment. Et cet état d'esprit, cette vision des choses, va nous permettre d'avancer de manière plus cohérente par rapport à qui nous sommes, et notamment poser des actes qui nous ressemblent plutôt que des actes qui sont liés à un état de stress et donc un petit peu de survie finalement, parce que le stress, c'est ça nous pousse à nous mettre en survie, puisque c'est le cerveau reptilien qui prend le contrôle d'une certaine manière et qui nous fait ressentir d'une manière ou d'une autre un danger par rapport à nos besoins, par rapport à qui nous sommes. Et donc un danger pour notre survie finalement dans un environnement qui nous paraît quelque part un peu hostile. Ça, c'est le stress. Et le but, évidemment, quand on est en paix, c'est de ne pas ressentir les choses comme ça et de pouvoir s'élever. Et cette élévation va nous permettre justement de prendre du recul par rapport aux choses, par rapport aux événements, par rapport aux relations. Alors, un des aspects justement par rapport aux relations, j'y reviens assez souvent. Bon, moi, j'ai vécu pas mal de choses assez difficiles sur le plan relationnel. Et on a tous été à un moment porteur de conflits vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'un ensemble de personnes par rapport à un type de comportement. Et moi, je vois ça fréquemment. C'est quelque chose, c'est un aspect sur lequel j'ai travaillé chez moi, évidemment, et je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de travail à faire à l'échelle du monde. C'est que on est tous parfois en train de projeter sur l'autre des intentions ou des choses à travers son attitude, au lieu d'aller simplement en parler ouvertement, simplement parce que c'est se montrer en fragilité, que cette fragilité ouvre la porte peut-être à des choses qu'on n'a pas envie de dévoiler à une personne qu'on n'apprécie pas ou avec laquelle on est en conflit, etc. Le problème, c'est que tout part de là. Quand une relation est porteuse de conflits, parce qu'elle est vraiment porteuse de conflits, au départ la relation n'est pas conflictuelle. Au départ, en fait, le conflit existe dans l'inconscient de deux personnes et il vient se manifester d'une certaine manière, en tout cas c'est ma vision des choses, il vient se manifester à travers la relation. Et qu'est-ce qui se passe? C'est simplement que deux personnes se rencontrent, ont chacune une fragilité qui n'est pas consciente et un bouton rouge qui est saillant et visible par l'autre et qui va être pressé de manière inconsciente chez l'un et chez l'autre et qui va générer le conflit. Donc ça veut dire en gros que la responsabilité de ce conflit appartient aux deux personnes. Il est né de leur relation, il est né de leur sensibilité. Je donne un exemple. Quelqu'un qui se fait agresser et qui décide au moment où il se sent agressé, même à la limite c'est même pas une agression, mais qui vit les choses comme une agression, décide de se battre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu la personne qui a agressé et qui n'a pas tenu compte du ressenti de l'autre, et puis il y a eu la réaction. Réaction, il s'est pris un coup. Oui, effectivement, il y a conflit. Mais quand on y réfléchit bien, en fait, ce conflit n'existe que parce que les deux intervenants ont décidé de prendre part à ce jeu, finalement. Alors qu'en réalité, une personne qui est bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans son esprit, qui est en paix avec elle-même, ne va pas être aux prises de ce conflit. Et ça, pour moi, c'est vraiment un des aspects les plus importants, c'est que quand on est capable, justement, d'être en paix avec soi, et donc de revenir à cette paix intérieure chaque fois qu'elle nous échappe, on va plus du tout être aux prises des relations conflictuelles avec l'autre. Et ça, pour moi, c'est vraiment important, parce que des occasions de conflit, il y en a plein, mais ce sont simplement des miroirs, en fait, des miroirs, des choses sur lesquelles on peut encore travailler pour essayer que ça n'ait pas de prise sur nous. Et à partir de là, on n'est plus porteur de conflit, et on peut laisser le conflit là où il est, c'est-à-dire peut-être chez l'autre, si c'est l'autre qui est concerné, qui essaie de l'initier pour pouvoir résoudre lui-même quelque chose qu'il n'a pas encore résolu en lui. Moi, je pense que la clé, finalement, ça reste cet état de paix intérieure. Et ça va très très loin. Je me souviens, dans une entreprise, un jour, j'ai expliqué à des gens, c'était pas du tout le registre dans lequel j'osais avancer à l'époque, j'ai expliqué à des gens qui me connaissaient depuis longtemps qu'en fait, quand j'étais stressé, tout le monde était stressé, en fait. Et je me suis mis à respirer très profondément en travaillant, et on m'a demandé si ça allait. Et en fait, j'expliquais, oui, en fait, je suis en train de travailler dans un état méditatif pour retrouver ma stabilité intérieure, ma paix intérieure. Et là, on m'a regardé, genre, avec quoi il vient. Et j'ai expliqué, en fait, à ces gens que, bah voilà, je pratique la méditation et je le fais même en travaillant. Et du coup, en fait, ça a complètement changé les relations. Le regard qu'on a porté sur moi était 10 fois plus humanisé qu'avant. Et j'ai partagé mes connaissances, j'ai expliqué comment je pratiquais, pourquoi je le faisais, etc., ce que ça m'apportait. Et ça a tout de suite changé les relations de manière complètement radicale. Au lieu d'être un petit peu rigide et froid, c'est devenu beaucoup plus humain, beaucoup plus chaleureux. Et les fois suivantes, c'est comme s'il y avait une transformation qui s'est opérée d'un seul coup. Et c'est là que j'ai eu l'occasion de mesurer à quel point cette question du stress est vraiment, vraiment un problème universel. On est tous en stress. Et être en stress, pour moi, c'est être en survie. Et c'est pas le but. C'est pas le but. En fait, être en vie, c'est vivre des choses qui vont nous faire avancer, qui vont nous faire grandir, qui vont nous permettre de croître, alors que survivre, c'est la base de la pyramide des besoins. Et on le sait tous, hein, quand on est en survie, on serait capable de battre ou tuer son voisin pour pouvoir avoir à manger et se sentir en sécurité. Ce sentiment de sécurité et cette nourriture, souvent, on peut les avoir, seulement, il y a des choses qui jouent en nous, qui sont de l'ordre de l'inconscient et qui vont parfois générer des tensions, qui vont prendre le dessus et qui vont nous mettre en état de survie. Alors évidemment, tout ça s'installe un peu malgré nous, ces systèmes dans lesquels on évolue, etc. Et je pense que les pratiques comme la pleine conscience et la méditation sont des clés pour retrouver cet état de paix, cet état d'ouverture qui nous permet justement de vivre et non de survivre. Et pour moi, c'est vraiment une distinction importante. Et ça doit aussi être le cas, enfin idéalement, hein, après ça doit, chacun en fonction de ses valeurs, mais pour moi vraiment je pense que l'humanité peut davantage se déployer dans l'ouverture d'esprit et dans la paix intérieure que dans la lutte contre l'autre. Lutter, ça sert à rien. Moi j'ai vu encore il n'y a pas très longtemps en fait en coaching une personne assez jeune qui est en lutte avec une autre c'est pas parce que cette personne en fait nous donne le sentiment d'être agressé que pour autant il faut l'agresser en retour. Ça va pas nous permettre en fait de sortir par le haut. Au contraire, si la relation est porteuse de conflit, eh bien on peut essayer de désamorcer le conflit en étant respectueux de soi et respectueux de l'autre, c'est-à-dire en considérant que on a de la valeur et que l'autre a de la valeur aussi, où qu'il soit dans sa souffrance ou qu'il soit dans sa propre problématique et quelles que soient les causes en fait de la génération du conflit. Et à partir de là, on prend la pleine responsabilité du conflit, notamment en essayant de transposer ça dans une relation plus saine, même si on n'est pas nécessairement obligé de devenir pote, hein, c'est pas ça, mais le truc c'est que je pense qu'il y a un respect de la nature humaine finalement, et c'est le respect de soi, on traite les autres comme on se traite soi-même au final. Et donc c'est vraiment important, vraiment très très important de prendre conscience que les relations qui nous apparaissent comme étant conflictuelles sont finalement des reflets des conflits qui sont en nous. Et la pleine conscience et la méditation nous permettent d'accéder à ce vocabulaire qui nous permettra de nommer, de toucher des choses aussi, de ressentir, de voir, de percevoir, et à partir de là effectivement de faire des choix, de poser des actes qui vont nous permettre de nous en libérer progressivement. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous met un petit peu sur la piste. Je vous invite vraiment à essayer. Après, il y a des méditations qui sont guidées si on a besoin d'être guidé. Il y a Christophe André qui avait écrit un bouquin à ce niveau-là. D'ailleurs, je pense que sa méditation est sur YouTube. C'est une méditation accompagnée qui dure plus d'une heure et demie. C'est très très long, mais elle explique tout. Et pour débuter, pour ceux qui ont besoin, ça peut être intéressant. Et puis pour d'autres, en fait, les fausses croyances par rapport à la méditation, il faut quand même en prendre conscience. C'est qu'il faut méditer en lotus, c'est pas le cas, qu'il faut prendre du temps pour le faire, c'est pas le cas non plus, qu'on peut pas le faire en faisant autre chose en même temps. Si on peut se mettre dans un état méditatif qui est un état de paix intérieure quasiment à tout moment et quoi qu'on fasse, c'est un état de présence. Et à partir de là, forcément, c'est quelle que soit l'activité, cet état de présence va justement nous coller, nous scotcher à l'instant présent, et ça c'est la clé. C'est ce que je disais hier, c'est une des clés, c'est être à 100% dans ce qu'on fait, et c'est notamment une des sources de bonheur et de mieux-être. Ça c'est Mihaly Csikszentmihalyi qui avait découvert ça. Il a fait des études à ce sujet-là, hein, j'en avais déjà parlé. Donc c'est un psychologue hongrois, je pense, qui a travaillé à l'université de Chicago et qui a découvert en fait que le bonheur ne vient pas, enfin c'est pas un but en soi d'ailleurs, mais vient simplement en fait d'un état de flux, c'est-à-dire l'exploitation complète de ses compétences dans un état de pleine conscience et de pleine présence à ce qu'on fait. Et c'est exactement ça en fait. La méditation peut nous conduire à ça. Et cet état méditatif, en tout cas, puisque finalement c'est pas un challenge en soi, va nous permettre de l'atteindre. Après, on l'atteint ou on l'atteint pas, ça se fait progressivement et c'est pas un but en soi. L'important, c'est d'être en paix avec soi. Voilà, je vous laisse avec ça, je vous dis à très bientôt dans le prochain podcast. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao.